Bonjour frères et sœurs, nous remercions le Seigneur pour cette première partie et sans plus tarder donc nous allons ouvrir la parole de notre Dieu, continuer à le faire et continuer sur ce thème de comment affronter les nouveaux défis dans nos vies. Et aujourd'hui, je vais voir avec vous l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, comment, voir quel défi qu'il avait à affronter et comment il l'a fait, et voir ce qu'il a fait effectivement. Donc nous avons vu précédemment l'exemple de Joseph, l'exemple de Moïse, et la fois dernière, nous avons parlé de Josué, qui a été désigné pour faire entrer le peuple d'Israël dans le pays de Canaan. Et ce pays, Dieu l'avait promis à Abraham et à ses descendants. Il avait dit aussi à Moïse. Et en Josué, l'Éternel donc dit « Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. » Et donc il dit que tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Et donc le pays de Canaan, avec les contours définis, et le Seigneur l'a rappelé à Josué au verset 4 de Josué chapitre 1, est le pays de la promesse. Promesse faite à Abraham dans Genèse chapitre 15, lorsque Dieu lui dit « Je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, etc. » Donc Dieu l'a déjà promis à Abraham ce pays, et le Seigneur a réitéré cette promesse à Moïse dans Deutéronome chapitre 1, lorsque Moïse dit « Voyez, j'ai mis le pays devant vous, allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, et à leur postérité après eux. » Donc Josué, lui, sa mission, c'était de prendre possession de ce pays que Dieu avait promis à Abraham et à Isaac, à Jacob, et il a retiré à Moïse. Donc il a conduit le peuple d'Israël. Et Josué a rempli donc pleinement cette mission parce que Dieu lui a donné l'assurance de sa présence. Dans ce texte de Josué chapitre 1, il dit « Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Dieu lui a donné aussi l'assurance de la victoire finale. Avant même d'avoir commencé, Dieu lui dit « Tu vas y arriver, tu auras la victoire. » Il dit, c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Donc voilà. Josué pouvait remplir cette mission, relever ce défi avec l'assurance de la présence de Dieu, mais aussi l'assurance d'aller jusqu'au bout et d'avoir la victoire finale. Et donc pour réussir son entreprise, Josué devait se fortifier et prendre courage. Et à trois reprises, le Seigneur lui dit, et il le fera si et seulement si il agit fidèlement selon la loi de Moïse. Voilà la condition de la réussite. Si il agit fidèlement selon la loi de Moïse, il doit la méditer et jour et nuit, le Seigneur lui dit. Et donc, dans tout le livre de Josué, nous est raconté comment Israël va prendre possession du pays et comment se fera le partage entre les différentes tribus. Et en Josué chapitre 24, Josué, donc là il est à la fin de sa vie, il a rempli sa mission et il va dire au peuple, maintenant craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Choisissez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et donc, Israël est entré dans le pays promis, mais ce qui était important et que Josué veut leur expliquer, c'est, voilà, vous avez un choix à faire. Soit vous servez l'Éternel, ou soit vous servez les dieux de ces autres peuples. Pour Israël, le pays promis était donc le pays où ils trouveraient le repos. Ils étaient pendant 400 ans esclaves en Égypte. Après, pendant 40 ans, ils sont restés dans le désert à cause de leur incrédulité. Et Dieu leur a dit, vous allez entrer dans ce pays et c'est là que Dieu va faire résider son nom. Et Moïse donc, avait demandé donc, aux deux tribus ennemies qui étaient restées du côté est d'aller accompagner leurs frères pour prendre le côté ouest du Jourdain. Et Moïse leur dit, jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous, et qu'ils possèdent eux aussi le pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne de l'autre côté du Jourdain. Et donc, c'est le lieu où le peuple allait trouver le repos. Et c'est dans ce pays donc, que Dieu choisirait un lieu pour faire résider son nom, comme il le dit dans Deutéronome 12. Alors, Israël, le pays est appelé le lieu de repos, l'héritage que l'Éternel leur donne. Et donc, là, le peuple devait être tranquille, vivre paisiblement, en communion avec son Dieu, et tout le peuple uni et qui adore l'Éternel, le seul vrai Dieu. Mais malheureusement, et on l'a lu encore ce matin, mais malheureusement, le peuple expérimentera très peu la réalité de ce repos, car il se détournera de Dieu pour servir les dieux étrangers. Mais tout de même, par la grâce de Dieu, ils ont eu l'occasion de goûter à ce repos durant notamment le règne de Salomon, qui était un règne de paix. Voilà, le temple a été construit et David avant avait déjà tout préparé. Et pendant le temps de Salomon, il y avait un temps paisible. Mais après la mort de Salomon, vous savez, il y a eu ce schisme qui fait que le pays s'est divisé en deux, avec les 10 tribus du nord, les 2 du sud. Et voilà, c'était tout le temps la guerre. Et tout cela à cause de son incrédulité, en servant d'autres dieux, Israël n'a pas vraiment expérimenté, connu, ce repos promis par Dieu. Et David, justement, dans le psaume 95, que j'aimerais lire avec vous, dans le psaume 95, c'est David qui invite donc le peuple à adorer Dieu, à le louer, mais en même temps, il rappelle aussi le danger de l'endurcissement. Alors on va lire ce chapitre, comme ça fera le lien, parce que le texte il est en deux parties. Le lien avec cette première partie de culte que nous avons eue, tant d'adoration, de louange, et il y a cette invitation à louer Dieu, et l'exhortation qui est donnée par la suite. Alors il dit dans le psaume 95, verset 1, « Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. » Allons au-devant de lui avec des louanges, faisant retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. N'endurcissez pas votre cœur comme à Meriba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoi qu'ils aient vu mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Et ça, c'est plusieurs années, siècles avant Ésaïe. Et donc, vous voyez, David, il exhorte le peuple à louer, à célébrer Dieu, à rendre à Dieu ce culte. Et le psalmiste met en garde le peuple qui se trouve déjà dans le pays promis. Il exhorte à l'humilité devant Dieu et à faire preuve de reconnaissance envers lui pour entrer dans son repos. Vous êtes dans le pays promis, mais vous n'êtes pas dans son repos. Et ce repos, il symbolise la communion avec Dieu, la paix avec lui, la joie, l'amour, mais aussi avec ceux qui aiment et adorent le vrai Dieu. Et donc, il y a une mise en garde du psalmiste vis-à-vis donc de ses contemporains qui risquent de se priver du repos de Dieu s'ils font comme leurs pères dans le désert qui ont endurci leur cœur et qui ont tenté Dieu. Et à cause de cela, ils ne sont pas entrés dans le repos de Dieu. Même s'ils étaient dans le pays, qui était censé être le pays où ils trouveraient le repos, ils ne sont pas entrés dans le repos de Dieu. Et donc le psalmiste a compris que pour trouver le repos de Dieu, il ne suffisait pas d'entrer dans le pays, mais qu'il fallait mettre sa confiance en la parole de Dieu et en sa puissance capable de délivrer. Et donc celui qui met sa confiance en Dieu, trouve en lui le repos dont il a besoin. Et donc, le pays promis, Canaan, préfigurait un royaume futur, le royaume de Dieu où la paix régnera. Dieu sera alors reconnu comme étant l'Éternel, le grand Dieu, le grand roi qui est au-dessus de tous les dieux. Et celui qui a le Dieu qui a créé toutes choses, à qui tout appartient, lui seul est digne d'être adoré par tous les peuples. Et donc David là dit voilà, c'est Dieu lui seul qui doit être adoré. Et donc il y aura ce royaume, il y aura ce temps où ça va se réaliser. Et le prophète Ésaïe donc a annoncé la venue de ce royaume au chapitre 11 que j'aimerais lire avec vous. Ésaïe chapitre 11. Lisons les 10 premiers versets. Il est dit que « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte et le lion comme le bœuf mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Et le prophète, vous savez, Jérémie aussi avait dit ça. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Alors, qui est ce germe? Qui est ce rejeton d'Isaïe? Qui est-il? Le Seigneur Jésus. Oui. Oui, c'est lui le Seigneur Jésus-Christ, le fils de David, qui va venir établir ce royaume de paix, de justice, d'équité. Et donc, la question c'est comment le Seigneur Jésus va-t-il donc établir ce royaume de paix, de justice, annoncé par les prophètes. Et c'est là toute la mission du Seigneur. Tout là, je dirais, le défi qu'il doit relever. Comment va-t-il faire tout cela? Pour permettre justement à l'homme de trouver le repos de Dieu. Alors, la première chose, c'est qu'il va accepter de s'humilier, devenant semblable aux hommes. Dans Hébreux chapitre 10, voilà, on peut lire ces passages. Alors, vous avez les références. Hébreux chapitre 10, verset 4. Je me suis imaginé voir le Père, le Fils, le Saint-Esprit, là, et dire, voilà, il faut faire quelque chose pour cette humanité. Ce que je veux, c'est d'être en communion avec les créatures que j'ai créées. Qu'est-ce qu'on peut faire? Regardez ce qui est dit là. Hébreux chapitre 10, verset 3. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ses sacrifices, en parlant des sacrifices de l'Ancien Testament. Car, verset 4, il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Jésus a dit, voici, je viens. Il n'y avait pas d'autre solution. Alors, il a pris l'initiative, il a voulu relever ce défi. Voici, je viens. Pourquoi il dit? Parce que dans le rouleau du livre, il est question de moi. Et tout ce qui est écrit là dans l'Ancien Testament parle de Jésus-Christ. Et donc, il fallait que Jésus-Christ vienne, qu'il s'humilie, qu'il devienne pleinement homme pour pouvoir être pleinement sacrificateur auprès de Dieu. Il a dit, voilà, je viens. Je vais quitter la gloire, ma gloire, et je vais m'abaisser, être là comme un serviteur parmi les hommes. C'était là, il fallait qu'il relève ce défi. Et l'apôtre Paul, dans Philippiens, il demande aux Philippiens de voir l'exemple de Jésus, de l'imiter pour montrer que ce que Dieu attend de chacun, c'est que nous fassions preuve d'humilité, que nous cherchions l'intérêt des autres au lieu de nos propres intérêts. Et il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Le Seigneur Jésus-Christ a accepté de relever ce défi en acceptant de s'humilier, d'être comme nous, des hommes, en toute chose sauf le péché. Il n'a pas regardé son égalité avec le Père, mais il a accepté de laisser tout cela. Et là, ça, c'est un exemple pour nous. Et parfois, nous sommes confrontés à des défis, mais nous devons comprendre que nous devons être prêts à abandonner. Nous devons être prêts à nous humilier. Nous devons être prêts à ne pas chercher nos propres intérêts pour chercher l'intérêt des autres. Et le Seigneur Jésus, c'est ce qu'il a fait. Il dit que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Il a annoncé la venue du royaume lorsqu'il est donc venu sur terre. Dans Marc chapitre 1, il dit, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc, toute sa mission, c'était d'annoncer la venue de ce royaume. Et il donne les conditions. Il dit, voilà, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et donc, c'est la condition pour entrer dans ce royaume. Se repentir, reconnaître que l'on est pécheur devant Dieu, confesser son péché, mettre sa confiance à la bonne nouvelle, c'est accepter le moyen de salut voulu par Dieu en la personne de Jésus-Christ qu'il a envoyé. Il est le seul moyen de salut, comme l'ont dit les apôtres dans Actes 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, il dit, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom par qui nous pourrions être sauvés. Et donc, c'est Jésus, c'est lui le seul moyen de salut, et c'est par lui seul que nous pourrions être sauvés. Alors, donc, le Seigneur annonce la venue de ce royaume, il donne les conditions, que l'homme reconnaisse son état devant Dieu et qu'il confesse et qu'il accepte le moyen de salut voulu par lui. Et le Seigneur va aller donc jusqu'à la croix, il va souffrir en sacrifice, et l'apôtre Paul dit que voilà, le Seigneur s'est fait un peuple qui lui appartienne. Et là, donc, le Seigneur met en action la volonté du Père d'avoir un peuple qui soit en communion avec lui, un peuple qui puisse trouver le repos de Dieu. Et dans Tite, alors tournez avec moi les quelques pages, Tite chapitre 2, versets 11 à 14. Il dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifesté. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Là, l'apôtre Paul, il parle de deux temps. Déjà, ce que le Seigneur nous demande, nous qui avons mis notre foi en lui, à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Il dit, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Donc il y a un autre temps qui est là, qui va arriver, où le Seigneur va revenir et cette bienheureuse espérance est là aussi. Et nous attendons cette venue-là. Mais il nous demande de ne pas rester là sans rien faire. Et il dit, il s'est fait un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Donc notons ça parce que je vais y revenir. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a établi, il est venu il a, pour établir ce royaume, et il y a eu cette discussion avec Pilate, et le Seigneur lui dit que mon royaume n'est pas de ce monde. Et si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Alors Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour un témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Son royaume n'est pas de ce monde. Son royaume n'est point ici-bas, il le dit. Et donc, il est venu annoncer la venue de ce royaume. Il donne les conditions pour entrer dans ce royaume. Et il dit que son royaume n'est pas ici-bas. C'est un royaume qui est d'abord spirituel. Le Seigneur, avant d'établir son royaume sur terre, prépare les cœurs, change les cœurs, les transforme et nous prépare pour lorsqu'il va revenir pour que ce royaume de paix soit établi sur la terre. Et donc, comme l'ont annoncé les prophètes, le royaume du Seigneur est d'abord spirituel. Il est composé de chrétiens authentiques qui ont mis donc leur foi en lui. Ces chrétiens authentiques sont ceux qui ont répondu à l'appel du Seigneur lorsqu'il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et donc, toutes ces personnes qui ont reconnu qu'elles sont chargées à cause du poids du péché et qui reconnaissent leur état devant Dieu et qui se tournent vers le Seigneur, trouvent le repos en lui. « Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Et lorsque l'on met sa foi en Jésus-Christ pour notre salut, on trouve le repos de Dieu, on trouve la paix avec Dieu et le Seigneur lui-même qui dit et qui nous déclare juste devant lui, sachant qu'il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et ça, vous pouvez le lire dans Romains chapitre 5, verset 1, Romains chapitre 8, verset 1. Ces chrétiens authentiques sont déjà dans le royaume du Fils de Dieu. Et en attendant son établissement sur la terre, le chrétien est appelé à vivre selon la réalité du royaume en cherchant à accomplir la volonté de son Sauveur et Seigneur, étant purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Et c'est là tout notre défi pour nous, frères et sœurs. Vivre selon la réalité de ce royaume, du royaume de Dieu, nous qui avons trouvé la paix avec Dieu. Vivre selon la réalité du royaume de Dieu, c'est vivre selon la justice, la paix, la joie. Puisque nous avons trouvé la paix avec Dieu, puisque nous sommes en communion avec lui, alors il dit, voilà, vivez avec cet état de fait. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 14. Il dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Puisque nous sommes déjà dans ce royaume, puisque nous avons trouvé la paix avec Dieu, ça doit se voir aussi entre nous. L'autre chose, vivre la réalité de ce royaume, c'est vivre en cherchant les choses d'en haut, comme dit l'apôtre Paul en Colossiens chapitre 3. Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Nous sommes dans le royaume. Dans Colossiens, le Seigneur dit qu'il nous a arrachés de la puissance des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé. Nous sommes déjà assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc vivons cette réalité. Ne vivons pas comme ces personnes qui vivent sans espérance et sans Dieu. Et ces chrétiens authentiques doivent vivre comme cela, en cherchant la volonté de Dieu, en cherchant à plaire à Dieu, en cherchant à honorer Dieu dans leur vie, pour que Dieu puisse agréer leurs prières, leurs louanges, leur adoration, comme on a dit. Et ces chrétiens vivent aussi dans l'attente du retour de Jésus. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Donc nous vivons dans l'attente du retour du Seigneur. L'autre chose, c'est que le Seigneur Jésus, il use de patience envers les hommes pour qu'ils arrivent à la repentance. Le Seigneur Jésus-Christ use de patience, comme il est dit dans 2 Pierre chapitre 3. Le Seigneur, il ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et l'auteur de l'épître aux Hébreux rappelle justement le danger de l'incrédulité qui est l'obstacle majeur et qui empêche à l'homme d'entrer dans le repos de Dieu. Le chrétien lui-même doit examiner son cœur pour savoir s'il est dans la vérité. Vous qui êtes là, vous devez examiner votre cœur pour savoir si vous êtes dans la vérité. Et il use de patience envers vous. Le vous, c'est vous qui entendez la parole de Dieu. Le Seigneur use de patience envers ceux et celles qui sont tentés d'abandonner la foi pour retourner en arrière. Donc, dans l'épître aux Hébreux, c'est de ça qu'il s'agit. Des personnes qui ont confessé le nom, mais à cause des tribulations, etc., ils avaient cette tendance à retourner dans le judaïsme. Et l'auteur de l'épître aux Hébreux, va, en s'appuyant justement sur ce texte de psaume 95, il va mettre en garde ses auditeurs, ses lecteurs, son assemblée. Ceux qui ont un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Donc au chapitre 3, versets 7 à 19, c'est ce qu'il va dire. Alors il va dire aujourd'hui, repentez-vous, convertissez-vous pour que vos péchés soient pardonnés. Et pour nous chrétiens, retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. C'est là l'exhortation qu'il donne. Bon, notre frère Marc nous a déjà vu ces différents textes, donc je ne vais pas le relire pour gagner du temps. Mais l'auteur reprend le psaume 95 et de la même manière que David, il exhorte le peuple à ne pas endurcir son cœur parce que sinon ils n'entreront pas dans le repos de Dieu. Alors l'auteur de l'épître aux Hébreux fait la même chose. Il y a le Seigneur use de patience envers ceux qui sont tentés d'abandonner la foi pour retourner en arrière. Donc je ne reviens pas encore parce que je veux que vous repentiez, que vous reveniez vers moi. Il use de patience envers ceux et celles qui pensent avoir encore du temps pour faire ce que bon leur semble. Des personnes qui connaissent l'Évangile, c'est ces personnes qui grandissent à l'Église, qui connaissent la parole de Dieu, mais qui ne vivent pas du tout la foi, qui ne fréquentent aucune Église, qui vivent leur vie, et puis on ne sait même pas quoi leur dire parce qu'on sait qu'ils savent la parole et qu'ils connaissent la parole de Dieu. Mais ils ne sont pas sauvés. Et le Seigneur dit qu'il use de patience aussi envers ces personnes-là. Ces personnes pensent qu'elles ont encore le temps. Et puis, elles vont vivre leur vie comme bon leur semble. Et puis, mais elles savent que, oui, c'est Jésus, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Les évangéliques, oui, ce sont de bonnes personnes. Le Seigneur use de patience envers vous. Il use de patience envers ceux et celles qui découvrent aussi cette bonne nouvelle. Au chapitre 4, et je vais lire ces versets, il dit, versets 6 et 7, « Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, bien longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer. Et peut-être que vous êtes là, peut-être pour la première fois, vous réfléchissez par rapport à la Bible, par rapport à l'Évangile, et vous n'avez pas encore mis votre foi en Jésus. Il est encore temps. Il y a encore la possibilité pour quelques-uns d'y entrer. Alors que vous soyez dans ce quelques-uns, n'endurcissez pas votre cœur. Le Seigneur use de patience aussi envers vous. L'autre chose, c'est que le Seigneur il remplit sa mission pleinement et il va le faire lorsqu'il va revenir sur la terre pour établir son royaume. Et c'est ce qu'il a dit en filigrane aux apôtres, au chapitre 1. Lorsque, par exemple au verset 6, il dit « Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Parce que les Juifs étaient dans cette attente-là. Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Donc, il ne dit pas que ça ne va pas se faire. Il dit, c'est Dieu va le faire quand il veut. Il dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Donc là, il y a l'annonce du retour de Jésus pour rétablir son royaume. Mais en attendant, les disciples sont invités à ne pas rester là à attendre, mais à se mettre à la disposition du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit puisse agir en eux pour annoncer cette bonne nouvelle en attendant le retour du Seigneur. Et donc, nous attendons ce retour. Et cette attente, elle n'est pas une attente passive. Et donc, tout cela nous aide à comprendre la pensée de l'auteur dans Hébreu chapitre 4, qui... je vais reprendre parce que ce texte est un peu difficile. Et dans Hébreu chapitre 4, alors le verset 3, il dit « Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit. Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde. Et le verset 11, il dit « Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos. Alors la question c'est, voilà, nous sommes entrés dans le repos, mais nous devons nous empresser d'y entrer. Nous entrons dans le repos de Dieu en croyant en Jésus. Nous avons la vie éternelle, mais ce n'est pas tout. Nous devons vivre sur la terre en cherchant à accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, pour que nous les pratiquions. Et il dit, afin de pouvoir se reposer de ses œuvres comme Dieu s'est reposé de la sienne. Donc je relis le verset 9. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Dans Apocalypse 14, verset 13, il est dit que « J'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Donc, lorsqu'on met tous ces textes ensemble, on voit que nous entrons dans le repos de Dieu lorsque nous avons mis notre foi en lui, mais il y a encore un repos qui est à venir. Et entre ce temps où nous sommes là, chrétiens, et ce repos qui est à venir, où Jésus-Christ va revenir pour établir son royaume et aussi pour l'éternité, le chrétien ne doit pas rester passif et il doit faire les choses, accomplir ses œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et de la même manière que Dieu a créé toutes choses pendant les 6 jours de la création et le 7e jour s'est reposé, nous sommes appelés, frères et sœurs, à accomplir les œuvres que Dieu nous a données, à les accomplir pleinement pour nous entrer dans ce repos. Et là, il s'agit de la vie après avec le Seigneur. Et les œuvres que nous accomplissons aujourd'hui, nous devons les faire pour la gloire de Dieu. Et donc, l'auteur de l'Épître aux Hébreux souligne le danger de tomber dans la désobéissance. Et donc, en tant que chrétiens, nous ne devons pas dormir sur nos lauriers. Il y a un repos qui est encore à venir et la manière que nous allons vivre pendant le règne millénaire de Jésus-Christ et aussi après va dépendre aussi de la manière qu'on va servir aujourd'hui. Donc c'est un avertissement qui est adressé. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Et la parole de Dieu, elle est là pour nous guider, pour nous aider. Il dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et juge les sentiments et les pensées du cœur. Nul créateur ni créature n'est caché devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Prenons ça au sérieux. Soyons frères et sœurs, et comme cela a été souligné ce matin dans la première partie, soyons conséquents dans notre vie chrétienne. Soyons ces chrétiens authentiques qui attendent la venue de leur Seigneur et qui s'y préparent. Nous pouvons rendre grâce à Dieu pour notre Seigneur Jésus qui a accepté de quitter sa gloire, de s'humilier et d'offrir sa vie en sacrifice pour que nous trouvions en lui le repos. Il est le médiateur de cette nouvelle alliance afin que ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur avait été promis. Donc cet héritage, le Seigneur nous l'a promis et c'est à nous maintenant de faire ce qu'il faut pour en jouir pleinement. Entrons dans son repos en croyant en lui pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, en obéissant à sa parole, mais aussi en accomplissant les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Voilà, donc que le Seigneur nous bénisse. Dans ce dernier passage que j'avais noté, l'auteur dit « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Que Dieu nous bénisse, nous aide, et que nous puissions grandir en lui.